Le thème ce matin, connaître, croire et continuer. Un jour, un pasteur a vécu une expérience inhabituelle puisque celui-ci s'est vu poser la question suivante par le Seigneur. Crois-tu encore ? Dire c'est un pasteur quand même. Hein. Un chrétien aussi. Mais quand même le pasteur qui a la charge de prêcher, que Dieu pose la question à ce brave pasteur, crois-tu encore ? Crois-tu encore que je t'aime d'un amour inconditionnel ? Crois-tu que toute chose concourt au bien de ceux qui m'aiment ? Que j'entends tes prières, même quand tu n'as pas de mots audibles pour les exprimer ? Quand tout semble noir et que tu es accablé, quand il te semble que j'ai fermé les cieux, crois-tu encore ? Crois-tu encore que je compte tous les cheveux de ta tête, que je prends note de tous les oiseaux tombés à la surface de la terre ? Crois-tu encore que la mort frappe tes bien-aimés ? Crois-tu encore que je communique force et réconfort, même devant la tombe ? Crois-tu encore ? Crois-tu encore que je t'aime, que je pardonne tous tes péchés, passés, présents, et que je pardonnerai tes futurs si tu te reposes sur moi avec confiance ? Crois-tu que je te comprends quand Satan dépêche ses messagers contre toi pour insuffler en toi mensonge ? Doute, blasphème, peur et désespoir. Crois-tu encore être dans la paume de ma main ? Que tu es plus précieux que l'or pour moi, ton sauveur ? Que la vie éternelle est ton avenir ? Crois-tu encore ? Qu'aucune puissance ne pourra t'arracher de ma main ? Que je suis affecté par les infirmités et les afflictions que tu subis. Crois-tu toujours que ces choses sont vraies ? La réponse de ce pasteur fut un oui catégorique. Et je vous invite à lire le psaume 103 à la maison. 103. Le caractère de la foi, lorsque Dieu nous demande d'avoir la foi, en d'autres termes, croit, il exige une chose qui se situe totalement au-delà de la raison. La définition de la foi a trait à quelque chose de déraisonnable, d'illogique. Croire quelqu'un qui vous aime sans jamais ne l'avoir vu. Vous croyez toujours ? Dans l'Épître aux Hébreux, nous lisons que la foi est la substance d'une chose que l'on espère, d'une preuve invisible. En résumé, il nous est dit, il n'existe pas de substance tangible, aucune preuve immédiate, évidente. Et pourtant, il nous est demandé de croire. Dans le monde entier, une multitude de croyants sont courbés sous le poids du découragement. Et dans cette vie, nous rencontrons tous ce sentiment, tous. Aucun parmi nous ne pourrait dire « moi je ne suis jamais démotivé, jamais découragé, tout va bien ». Ça serait un mensonge. Or, si nous comprenons la nature de la foi, sa nature illogique, déraisonnable, nous découvrirons aussi le secours dont nous avons besoin pour nous en sortir. Dans la Genèse, au chapitre 12, versets 1 à 4, Dieu va parler à Abraham, il va dire « Va-t'en de ton pays !» C'est clair, c'est net, il n'y a pas à discuter sur le fait de quitter son pays. Mais on peut imaginer Abraham poser la question « Je suis prêt à partir faire ta volonté, mais où aller Seigneur ?» Je quitte mon pays, d'accord, mais je vais où ? Il y a quatre points cardinaux, je vais où ? et voir Dieu lui répondre, je ne te le dirai pas par seulement. Ça, c'est de la foi. Cela n'a rien de logique pour toute personne dotée de bon sens. Et souvent, nos difficultés, nos problèmes sont que nous avons notre logique. Tout petit, à notre insu, même peut-être à l'insu des parents, sans même qu'ils s'en rendent compte, on peut donner, se dire, à quoi sert l'école élémentaire ? Les premières années, les trois premières années, la maternelle, ça sert à quoi ? Ils n'apprennent pas à lire, pas à écrire, et pourtant c'est tellement essentiel. Inconsciemment, les petits, on va leur donner des règles, une logique. On va les formater pour qu'ils puissent vivre dans le monde, dans la société, que ce ne soit pas des sauvages, qu'ils puissent vivre avec l'autre, malgré la différence de l'autre. Dire, lui c'est mon copain, lui c'est ma copine. Régler aussi les humeurs, parce que la petite fille lui a pris la voiture, et paf, il tire sur la couette. Dire ça, c'est pas bien, il ne faut plus le faire. Tata t'a pris ça à la maison, mais ça ne se fait plus. Des fois, il y aura des pleurs, des incompréhensions, mais ce sont des règles qui sont établies, données, pour vivre au mieux avec la société. Et nous avons une logique. Et quand nous grandissons, nous avons une logique. Je travaille, j'ai une paye. Je travaille jusqu'à la retraite, après, je suis payé à rien faire, presque. Parce que souvent, les retraités sont plus occupés que les actifs. Enfin, disons, ils prennent plus de temps. Et cela n'a rien de logique. Avec la logique de Dieu, parfois, nous sommes dans l'incompréhension la plus totale. Mais pourquoi, Seigneur, tu me conduis à faire ça ? Pourquoi, Seigneur, tu me conduis dans tel endroit ? Pourquoi je dois vivre telle et telle situation, telle et telle chose, de cette manière ? C'est tellement pas logique. Hébreux 11:8. C'est par la foi qu'Abraham obéit à l'appel de Dieu en partant vers un pays qu'il devait recevoir en héritage et il partit, vous êtes assis, bien assis, sans savoir où il allait. À droite, à gauche, à droite, à gauche. Il y a un piège dans tout ça, mes frères et sœurs, c'est de penser que Dieu nous prend pour une marionnette et que Dieu se joue de nous. En aucun cas, Dieu se joue de nous. Je vous dirais même mieux, Dieu vous respecte plus que vous vous respectez vous-même. Un homme qui va s'enivrer, il rentre comme ça. Vous croyez qu'il se respecte ? Il ne se respecte pas. Mais Dieu lui le respecte. Bien plus que du respect, c'est l'amour. Pourquoi Dieu hait le péché ? Parce que le péché nous noircit. Noircit notre cœur. Le péché fait de nous des gens sales, sentons mauvais. Et parfois on peut se glorifier de notre péché. Et pourtant, on est dans l'irrespect de notre personne. Et Dieu nous respecte. La foi a exigé l'action d'Abraham sur la seule base, une promesse. Une promesse. Abraham obéit à Dieu, intervient, et Dieu intervient à l'heure. Souvent, notre difficulté, eh bien, c'est un problème de foi. De nombreux croyants luttent contre des habitudes pécheresses et ne les pointez pas du doigt en disant « t'es chrétien, toi ?» Combien de chrétiens sont dans la lutte, dans le combat contre eux-mêmes ? Parce que certains ont encore des addictions. Des addictions qui sont liées à un certain refuge quand tout va mal pour eux, lorsqu'ils passent par des mauvais moments, un petit canon, et un deuxième, et un troisième, et puis on se retourne la tête. Je suis tout seul à la maison, personne ne sait, c'est mon secret à moi. Et même si j'en suis pas fier, et pourtant mes amis, ces gens, ces frères, ces sœurs, ça va peut-être vous étonner ce que je vais vous dire, mais ils aiment peut-être le Seigneur plus que certains parmi nous. Et quand ils ont péché, Ils savent qu'ils ont péché. Il n'y a pas besoin de leur dire, frère. Il n'y a pas besoin d'être un inquisiteur de la grâce. Oui, non, je ne me suis pas trompé en disant inquisiteur de la grâce. Je sais pourquoi je dis ça. Inquisiteur de la grâce. Dans notre pays, dans notre cher pays de France, nous avons eu des inquisiteurs qui se moquaient complètement si vous convertissiez ou pas. C'était juste pour remplir un registre. Enfin, que vous convertissiez, oui ou pas. C'était une histoire de cœur. Ils s'en moquaient. De moins que le registre se remplissait. Et le protestant s'est converti. Ah oui, c'est converti. Oh, ça en fait un de plus. On torturait les gens. Et parfois, nous pouvons être des inquisiteurs de la grâce dans les assemblées, aussi, ici ou ailleurs. Mais non, Dieu, frère, si Dieu ne répond pas à ta prière, t'as peut-être un péché caché. Si t'as pas un travail, tu manques de foi. Quelle bêtise. Combien on peut dire, mais surtout combien on peut faire, mais combien on peut dire de bêtises parfois, des choses, mais qui tuent les gens. Après, on s'est dit, Seigneur, envoie des chrétiens dans l'église. Envoie des chrétiens. Enfin, des gens qui vont se convertir. Encore les gens qui sont pas convertis, les envoyer à l'église, ok. Mais ramène des rétrogrades. Mais est-ce que tu as vu comment tu as parlé à celui qui est devenu rétrograde? Tu as mal parlé. Tu l'as pointé du doigt. Oh, bien sûr, il ne s'agissait pas de le flatter en disant « Oh, c'est bien, je t'ai vu avec la clope. La cigarette à la bouche pendant que tu conduisais. Frère !» Et alors? Est-ce que vous croyez que Dieu est d'accord avec ça? Non. Est-ce que vous croyez que le frère ne le sait pas? Oui, il le sait. Comment doit-il être entrepris, ce frère? Avec amour. Est-ce qu'il a besoin de savoir que vous l'avez vu en train de... Non. L'amour couvre une multitude de fautes. Et ça, c'est biblique. Hein? C'est pas du Stéphane Minger. Hein? Dieu est le péché, parce que le péché nous détruit. Le bon samaritain, je suis en train de sortir mes notes, mais c'est pas grave. Le bon samaritain, je n'ai pas le Covid. N'ayez pas peur. Le bon samaritain, non, parce que c'est une nouvelle mode, là, à chaque fois qu'on tousse, t'es malade. Oui, mais ça fait pareil, ça fait partie des mêmes choses que...
Frère, je t'ai entendu tousser.
Le bon samaritain, que fait-il? Il voit un gars qui est dans le ravin, là. Le gars, il n'est pas mort, hein. Vous le savez qu'il n'est pas mort. Mais il nous a dit qu'il était à demi-mort. Il y a une partie de lui qui est morte. Ce bon samaritain représente la personne de Christ. Il le prend, il le mettait sur sa monture, il lui verse de l'huile, du vin, cicatrisant, un baume. Et il le place à l'hôtellerie. Je te le confie. Je te donne ce qu'il faut. Je te le confie. L'hôtellerie, vous le savez tous, que représente l'hôtellerie? C'est nous. C'est l'Église. Il y a combien de tordus dans Martigues? Je le dis fortement, tordus. Combien il y a d'ivrognes? Combien il y a de gens qui sont mal? Vous croyez que l'ivrogne, il fait son choix de picoler... Pardon, je parle un peu trop familièrement, excusez-moi. Vous croyez que l'ivrogne, il choisit de boire, à s'enivrer comme ça, que le matin, il est à la tremblotte, il est obligé de boire le canon parce que... C'est pas un choix. Bien sûr, peut-être au début, c'était un choix. Mais au fond de lui-même, il y a une blessure profonde. Je ne crois pas que la prostituée se prostitue pour le plaisir de gagner de l'argent facilement. Combien sont-elles tombées dans le piège en disant « Viens, je t'aime, viens avec moi en France. Maintenant, donne-moi ton passeport. » Et tu l'auras que quand tu auras, 30 ou 40 000, ou je sais pas, 1000 euros. Et tu redonneras, je te redonnerai ton passeport. Combien de gens sont esclaves du péché? Combien de gens sont esclaves de la philosophie? L'autre jour, ce brave gars là, sur le parking, il faut des milliards et des milliards de coïncidences pour qu'il y ait le monde, pour que la terre soit faite. J'écoutais parler, mais même en parlant, il me disait qu'il aimait lire des revues scientifiques, mais en parlant, il disait des bêtises. C'est une planète qui a explosé, je crois. Enfin, je crois que c'est comme ça qu'il m'a dit les choses. Qui a fait la terre? Mais je dis, mais la terre, j'allais dans son sens, mais enfin, quand on me parle, un mot, c'est un mot pour moi. Je vous assure, hein. Un mot, c'est un mot. Je fais attention des fois parce que vraiment, des gens, ils parlent entre les lignes des fois, mais pour moi, un mot, c'est un mot. Il me dit, et c'est comme ça que, je ne sais plus comment il a dit, cette planète a fait la Terre. Mais je dis, mais cette planète, qui l'a faite? Ah, mais il faut des milliards, je crois, il m'a dit, des milliards et des milliards de coïncidences. Mais ce sont des gens qui sont liés par des mauvais raisonnements. Combien de gens sont pris par leur religion, prêts à couper la tête à quelqu'un parce qu'ils ne pensent pas comme lui? Même si l'autre, c'était provocateur. Il ne faut pas chercher la provocation. Mais comment peut-on tomber dans une telle folie à faire de telles choses? Parce que ce sont des gens qui sont liés par les ténèbres. Ce sont des gens malheureux. Malheureux. Même s'ils n'ont pas l'air malheureux comme ça. Mais au fond, ce sont des esclaves. Et donc, combien de chrétiens sont en lutte, en combat avec eux-mêmes, contre l'alcool, contre les stupéfiants? Et pourquoi pas? J'ai déjà eu l'occasion de le dire, par la pornographie, par le réfrigérateur. Réfrigérateur? Qu'est-ce qu'il raconte le frère? Oui! Deux personnes, j'ai été témoin, pas témoin parce que leur refuge, c'était le frigo! Elle se nourrissait, mangeait, parce que psychologiquement, elle avait besoin de ça. C'était leur refuge. D'autres, c'est l'alcool. D'autres, c'est la colère. D'autres, c'est autre chose. D'autres, c'est les jeux. D'autres, c'est le sport. Ah, c'est bien de faire du sport, hein. D'ailleurs, Paul n'a jamais dit qu'il ne fallait pas faire de sport, hein. C'était utile à peu de choses, d'accord? Bon, enfin, moi, quand je me vois, des fois, je me dis, tu feras bien de t'y mettre. Parce que Paul, il parlait comme ça, mais Paul, il faisait de la marche à pied. Hein, que moi, je prends la Mégane. 500 mètres à faire, je prends la Mégane. Mais rigolez pas, parce que je ne suis pas le seul, apparemment. Enfin. Mes frères et sœurs, pourtant, tous ces croyants ont un point commun. Ils passent à côté de la victoire et de la vraie liberté. Pourquoi? Parce qu'une expression qui revient plusieurs fois. Par la foi. Galates 2,16 nous dit « Justifié par la foi en Christ ». Galates 3,11 « Le juste vivra par la foi. Le Seigneur s'engage à nous préserver de la chute, à nous présenter sans défaut, à nous garder saints par la foi, etc. etc. » C'est par la foi. On peut en conclure que c'est une affaire de foi et que c'est fait. Et ce qui fait souffrir les chrétiens, pardon, qui luttent contre des habitudes pécheresses, est que l'incrédulité est la racine de leur esclavage. Tout simplement dû à un manque de foi. Votre victoire ne doit pas être le fruit d'une lutte, mais de la foi que Jésus-Christ a gagné la bataille pour vous, parce que Dieu est fidèle. Croyez-vous que Dieu vous aime? Croyez-vous que Dieu vous aime encore? C'est bien ceux qui disent Amen. Je ne vous ai pas demandé de dire Amen, mais c'est bien, c'est que ça sort du cœur, voilà. Mais parmi tous ceux qui se sont tus, est-ce qu'il y en a qui croient encore que Dieu les aime? Au début de la conversion, c'est génial. Wouh, c'est la fête. Moi, je me rappelle, je dansais à la maison, disons. J'étais, je crois, avec mon frère, on dansait. Wouh! On dansait pas sur du rock and roll. Non, on dansait parce que je crois qu'on dansait sur des cantiques. On était, non, les soleils sont complètement marteaux. Tu verras, mon petit gars, quand tu auras 30 ans de conversion, hop, tu vas vite te calmer. Hein, tu vas au culte?
Oui, je vais au culte. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Est-ce que je peux me lever? Est-ce que c'est pas interdit ici? Non, c'est pas interdit. Je peux frapper des mains? C'est pas interdit? Non, c'est pas interdit. Tu peux frapper des mains. Alléluia. Mais au début de la conversion, c'est bon, ça, c'est le feu!
Jean 4,16. Et nous avons connu l'amour, que Dieu nous porte, et nous y avons cru, encore la foi. Dieu est amour, celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu, et Dieu demeure en lui. Le verbe demeurer signifie ici rester dans une attitude d'attente. En d'autres termes, Dieu désire que nous nous attendions à ce que son amour soit journellement renouvelé en nous, tous les jours. Est-ce que vous mangez une fois sur sept? Est-ce que vous buvez un café sur tous les 15 jours? Tous les jours, on a besoin d'être renouvelé. Dans l'amour de Christ. Mais en réalité, pour la plupart que nous entrons dans l'amour de Dieu et en sortons en fonction de nos hauts et de nos bas. Nous nous sentons en sécurité dans cet amour uniquement si nous avons bien agi, même lorsque nous sommes éprouvés ou tentés et que nous avons failli, nous ne sommes plus sûrs de son amour. Tant que nous sommes dans le combat, c'est génial. Tu sais que Dieu t'aime?
Oh ben bien sûr, frère. Quelle question! Bien sûr, Dieu m'aime! En plus, ce matin, j'ai eu un culte. Oh, po, 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 po. Ah, je sais que Dieu m'aime. Oh, wow, oh, wow. La forme, ah, je déplacerai des montagnes.
8 jours après, le frère a été tenté. Le frère a chuté. Est-ce que tu sais que Dieu t'aime?
Je sais pas. Je sais pas.
Mais je vous dis une chose, c'est que Dieu n'est pas une girouette. Quand Dieu dit quelque chose, il ne revient pas dessus. Et quand Dieu dit « je t'aime », vous croyez que Dieu ne sait pas ce que vous allez faire, comment vous allez réagir? Dieu sait à l'avance tous nos coups tordus que nous allons faire. Ce n'est pas une invitation à se lâcher, hein, en se disant « Wow, oh, je vais me prendre 2-3 apéros ce soir, allez, paf, 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 et le 51, je t'aime, et bing, 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 bing !» Ça ne veut pas dire ça, hein. Ça s'appelle du péché. Mais Dieu connaît notre caractère. Dieu sait ce que nous avons fait, ce que nous ferons. Et Dieu n'est pas d'accord avec nous. Quand nous nous souillons. Mais attention à ne pas jouer à ce petit jeu. Oh, je ne peux bien faire ça. Tiens, j'ai trompé ma femme, tu vois. Je suis en déplacement, je vais tromper ma femme. Personne ne saura. Puis je demanderai pardon à Dieu après. Mais vous croyez qu'il n'y a pas de conséquences dans le péché? J'ai trompé mon mari, tiens, il est en déplacement. Avec le voisin. Personne ne le saura. Kiki, tu te tais, hein, tu dis rien, hein. C'est le petit caniche de la maison. Vous croyez que Dieu, bien sûr que Dieu le voit, mais vous croyez honnêtement qu'il n'y aura pas de conséquences? Qu'il y aura peut-être un divorce, il y a quelque chose qui est cassé, qui est brisé. Mais est-ce que vous croyez que pour autant Dieu ne vous aime pas? Dieu vous aime encore. Mais Dieu est dans la peine. Prenez l'exemple sur vos enfants. Est-ce que vous êtes d'accord quand vos enfants vous ramènent une bonne note?
Papa, j'ai un 18 sur 20 en anglais. Wouh!
Dis donc! T'es meilleur que ton père en anglais, dis donc.
Et en maths le lendemain.
Papa, j'ai eu un 4 sur 20 en maths.
Je te hais! Je te renie! Non, vous n'allez pas réagir comme ça. Demain, si votre petit devient un délinquant notoire, est-ce que vous allez dire, m'en fiche? Je l'ai élevé, j'ai touché les allocs jusqu'à je ne sais pas quel âge. Il fait sa vie. Des parents qui se respectent, vous croyez que le père, la mère n'en souffriront pas? Même la mémé, quand elle aura 80 ans, que son petit de 60 ans dira « Maman, je divorce », vous croyez que la mémé de 80 ans va dire « Oh, pff, c'est pas grave, j'ai assez de mes problèmes dans ma vie ». C'est une grand-mère qui en souffrira. Parce que c'est ça l'amour. Le véritable amour, c'est pas selon ce qu'on va vous faire comme cadeau ou pas, on doit aimer. Dieu nous aime, pas selon votre petit caractère, votre bonne ou mauvaise humeur du jour, mais Dieu vous aime. Il ne cessera de vous aimer. Je vais même vous dire, demain vous dites à Dieu, « Dieu, c'est terminé. Ce matin, on est combien aujourd'hui? Le 19? C'est ça? 18? C'était le dernier culte. Jamais plus, je vais donner toute ma bibliothèque à qui voudra bien l'apprendre. Mes bibles, tout ça, je ne veux plus jamais entendre parler de toi. Mais vous êtes libre de le faire. Mais pour autant, il y a une chose que vous ne pourrez jamais empêcher. Que Dieu vous aime encore. Et même lorsque vous serez sur le seuil, à la porte de l'enfer, parce que vous aurez rejeté Dieu, Dieu vous aimera encore. Alors pourquoi aller en enfer? Parce que ça sera votre choix à vous. Mais ce n'est pas le choix de Dieu. C'est la raison pour laquelle Dieu est mort sur la croix. Parce que Dieu vous aime. Posez-vous la question, qu'est-ce qui pousse une femme et un homme à se faire confiance et à un jour se dire, je t'aime, je me marie avec toi. C'est génial, hein? Qu'est-ce qui pousse un petit enfant à se confier à sa grand-mère? À son grand-père? Après tout, il les a toujours vus vieux. Il est né, il les a vus vieux. Il a 12 ans, il les voit toujours vieux. Mais il dit, mais on m'a mis dans cette famille, je suis en face de personnes qui sont vieilles. Comment se fait-il que ce petit garçon va faire confiance à cette personne âgée? Comment se fait-il que un petit garçon va faire confiance à son père lorsqu'ils vont marcher sur la brèche d'une montagne, sur le bord d'une montagne, en disant « Donne-moi ta main ». Comment se fait-il que ce petit garçon va y faire confiance? C'est parce qu'il se sait aimé. Et tout ça, c'est encore lié avec l'amour. Abraham s'est su, s'est senti aimé. Pas senti, s'est su aimé. Parce qu'il faut faire attention avec nos sentiments, comment nous ressentons les choses. Vous avez vu que dans le mot sentiment, il y a un petit, on peut jouer sur les mots. Sentiment. Et parfois, nos sentiments nous mentent. Est-ce que Dieu t'aime encore? Bon, je ne sens rien. Ben oui, parce qu'il y a sentiment. Et parfois, nos sentiments sont de grands mensonges. Ce n'est pas le fait de se sentir aimé ou pas de Dieu. C'est de se savoir aimé de Dieu qui change tout. Parce que si vous faites simplement mention à vos sentiments, ça vous jouera toujours des tours dans votre vie chrétienne. Et vous serez comme ça. Vous serez un vrai forain. Mais un forain spécialisé dans les montagnes russes. Ça va? Oh, gloire à Dieu! Wouhouhou, ça va plus du tout! Wouhou, ça va! Et là, oh, je sais plus où j'en suis! Tiens, moi aussi, j'avais un peu de pu. J'allais faire la montagne russe aussi. Moi. Allez, je me dépêche. Sophonie 3, 17 dit: Le Seigneur ton Dieu est un héros, sauveur. Il fera de toi sa plus grande joie. Il gardera le silence dans son amour. Il poussera des cris d'allégresse à ton sujet. Cette glorieuse révélation issue de l'Écriture nous apprend que Dieu se réjouit dans son amour pour qui? Pour la voisine, pour le voisin, non, pour nous. Le terme hébreu employé ici pour garder le silence signifie que Dieu, écoutez bien, vous êtes prêts, hein, ne se pose pas la moindre question quant à son amour pour nous. Il ne se dit pas « je l'aime, je n'aime plus, je l'aime encore ». Vous savez, comme les marguerites, là. Non, c'est... Je t'aime beaucoup, passionnément, pas du tout. Je t'aime... Ouh, attention, hein! Dieu ne se pose pas la question pour savoir je l'aime, je ne l'aime pas. Il nous aime, c'est tout simple. Une fois pour toutes, il a fait de nous l'objet de son amour et nous ne le retirera jamais. En fait, ce verset indique qu'il se satisfait à ce point de son amour pour nous qu'il pousse des cris d'allégresse à notre sujet. Là-haut au ciel, mais c'est la fête. Quand il y a un chrétien qui arrive, quand Guy Devaux est arrivé, quand Marie Devaux est arrivée avant lui, mais c'était la fête. Sois bienvenu. Nous, on pleure, et il nous manque. On revoit avec Guy, avec sa Volvo bleue. Oui, parce que son klaxon, c'est une vache. Avec ce, on en parlait avec ma femme de cours, avec ses petites cassettes au centre de vacances des Alpes. Ils s'occupaient du enregistrement, tout ça. Ils nous manquent, ce sont des gens qui nous manquent. Mais eux, de leur, c'est pas la peine de leur parler, ils vous entendront pas. Et puis c'est diabolique. Hein. Donc il ne faut pas parler aux morts, ça vous le saviez ça. Mais enfin, je le dis. Mais si le Seigneur leur disait, veux-tu retourner à Martigues, à l'église? Non, surtout pas. C'est génial ici. Moi, je marche plus par la foi, par l'espérance. Mais je te vois maintenant, mes yeux te voient. Mon oreille avait entendu parler de toi. Maintenant, mon œil te voit. Conclusion, croire quand tous les moyens nous font défaut est particulièrement agréable à Dieu. Jésus dit à Thomas, parce que tu m'as vu, tu as cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. Jean 20, verset 29. Et ça, eh ben, il est question de nous. Moi, je n'ai jamais vu le Seigneur. Mais je sais qu'il est vivant. C'est alors que les hordes de Satan viennent attaquer votre esprit avec la peur, la colère et des questions accablantes. Où est ton Dieu maintenant? Tu as prié jusqu'à l'épuisement de tes larmes. Tu as jeûné, tu t'es appuyé sur des promesses, tu as fait confiance. L'injecte dans votre esprit des pensées mauvaises. La prière ne sert à rien. Ne t'appuie pas sur Dieu, etc. Ne lui fais pas confiance. Dieu a-t-il réellement dit? Pourtant, au sein de ces ténèbres, vous ne tarderez pas à entendre Dieu vous murmurer « Je suis avec toi ». Je ne peux pas t'informer maintenant de ce qui se passe, mais un jour tu comprendras. Tu verras que tout ceci faisait partie de mon plan. Ce n'était pas un accident. Il ne s'agissait pas d'un manquement de ta part. Tiens bon, permets-moi de t'enlacer à cette heure de souffrance. On va terminer par la prière.